la morale sexuelle. Soyons honnêtes et reconnaissons que, quand on parle de morale, on pense tout de suite aux relations sexuelles. Rien d'étonnant à cela puisque la morale implique notre relation aux autres et que les relations sexuelles sont justement le mode de relation qui implique les personnes de la façon la plus intime qui soit. Il est donc bien normal que ces questions occupent une place prépondérante. Aux yeux d'un non-musulman, la morale sexuelle musulmane peut sembler assez austère, mais la lecture d'un ouvrage comme celui de Abdel Wahab Boudiba, « La sexualité en islam », Presse universitaire de France, 1975, réédité depuis dans la collection Quadrige, en donne une vue nettement plus nuancée. Les relations sexuelles sont une bonne chose en soi, à condition toutefois qu'elles s'expriment dans des limites soigneusement définies. Les rapports sexuels sont un don de Dieu et sont bons. L'islam ne croit pas qu'une vie de célibataire, sans aucune relation sexuelle et sans mariage, soit plus propice à la sainteté qu'une autre. Les chrétiens considèrent que Jésus a été célibataire durant toute sa vie et sont choqués que l'on puisse penser autrement. Les moines bouddhistes ne se marient pas, à quelques exceptions près dans le bouddhisme japonais. Et certains hindous, à la quatrième et dernière étape de leur vie, celle du sannyasin, quittent leur maison et leur épouse pour se concentrer entièrement à leur libération intérieure. Les juifs, les confucianistes, les taoïstes et les musulmans ne partagent pas cette vision selon laquelle le mariage et les relations sexuelles peuvent interférer dans la recherche religieuse. Pour les musulmans, les relations sexuelles, tout comme d'autres actions entreprises avec modération et discernement, peuvent être considérées comme un acte du culte et devraient être précédées par une prière. Les relations sexuelles sont source d'impureté rituelle. On doit procéder à la purification rituelle après des rapports ou le lendemain matin, avant de commencer la prière rituelle. Pour en savoir plus sur ce point, écoutez le chapitre 9. Les relations sexuelles impliquent des émissions corporelles. Or, toute émission corporelle exige la purification avant tout acte cultuel. Les rapports sexuels ne sont pas autorisés pendant les règles, en partie parce que le contact avec le sang exige la purification. L'impuissance est un problème médical à traiter par les meilleures méthodes thérapeutiques qui soient. Ainsi, l'utilisation du Viagra est permise si elle ne mène pas à des exigences sexuelles excessives auprès de l'épouse. Les tendances à la concupiscence, au désir, ne doivent pas être encouragées. Aussi, le Viagra ne doit-il pas être pris par un homme en bonne santé au plan sexuel, uniquement pour augmenter son appétit sexuel? Il faut dire aussi que certains courants fondamentalistes refusent d'en entendre parler, car pour eux, ce n'est là qu'une tentation diabolique nouvelle et une pratique qui enfreint l'éthique musulmane. La masturbation, les textes ne parlent que de la masturbation masculine, est considérée comme indésirable. Sourate 23, 5, 7. Cependant, il n'est pas clairement établi que le verset 7 se rapporte réellement à la masturbation. L'école juridique en balite, écoutez chapitre 8, autorise la masturbation afin d'éviter la fornication ou l'adultère quand l'homme ne peut pas se marier. L'éducation et l'indépendance financière retardée mènent souvent à des mariages tardifs, alors que la santé et la nutrition mènent à une maturité sexuelle plus précoce. Cela représente un défi évident pour l'islam, qui condamne gravement les manquements au respect de la sexualité en dehors du mariage. En dehors des pénalités légales pour cause de fornication, les cultures musulmanes se montrent traditionnellement tolérantes envers les relations sexuelles masculines avant le mariage. En revanche, les relations sexuelles avant le mariage, côté féminin, sont fortement condamnées et apportent un grave déshonneur sur la famille. Ces restrictions renvoient généralement au souci premier de la famille musulmane, la fécondité de l'épouse, et à son aptitude à donner une descendance à la famille. Les relations hors mariage pour une femme, surtout si elle n'est pas encore mariée, peuvent mener à un crime d'honneur, et dans certains cas, même une femme qui a été violée apporte l'opprobre sur toute sa famille. Il se peut alors qu'un homme de la famille, au sens large, soit chargé de l'assassiner pour racheter l'honneur de la famille. Les crimes d'honneur sont contraires à la loi islamique, mais néanmoins sont encore parfois d'actualité dans certains pays musulmans. La prostitution est moralement et légalement condamnée dans l'islam. Cependant, les prostituées existent dans les sociétés musulmanes. La sourate 24, 33, ainsi que diverses traditions, hadiths, condamnent le fait d'obliger les esclaves ou les servantes féminines à se prostituer, parfois en vue d'un bénéfice commercial de la part du propriétaire qui se transforme en proxénète. Pour aller plus loin. Dans l'islam chiite duodécimain, il existe une forme légale de mariage provisoire, muta. Ce contrat de mariage spécifie combien de temps le mariage durera, de quelques heures jusqu'à 99 ans, et ce qu'en sera le paiement. L'épouse n'a alors aucun droit sur la succession, mais les enfants d'un tel mariage sont légitimes et héritent. Les musulmans sunnites considèrent la « muta », littéralement « jouissance », comme une forme de prostitution. La sourate 4, 26, est invoquée à la fois par les sunnites et les chiites, les premiers lisant un certain mot très important comme signifiant « le cadeau de la consolation » donné à une femme divorcée, tandis que les chiites l'interprètent comme signifiant « le mariage provisoire ». Même les sunnites reconnaissent et les traditions le confirment, que Mohammed a permis à l'origine le mariage provisoire pour les musulmans éloignés de chez eux par des campagnes militaires ou de lointains voyages commerciaux. Les sunnites disent qu'il s'agissait là d'une concession à la faiblesse humaine, le mariage provisoire étant somme toute préférable à l'adultère. Les sunnites font remarquer que plus tard, Mohammed a interdit le mariage temporaire et que l'on peut comparer cette situation à l'attitude de Mohammed à l'égard de l'alcool, autorisé au début, mais avec des restrictions, puis ultérieurement interdit par le Coran, selon l'interprétation normale. Les chiites attribuent la prohibition du mariage provisoire non pas à Mohammed, mais à Omar, le deuxième calife, successeur de Mohammed. Pour les chiites, Omar n'est pas un successeur légitime, parce qu'il n'était pas descendant de Mohammed. Par conséquent, les chiites ne se sentent pas tenus de respecter son interdiction du mariage provisoire. Le sexe anal est déviant. L'islam enseigne que certains actes sont contraires à l'intention de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans l'ordre créé, un concept semblable à ce que l'on appelle parfois en Occident la loi naturelle. Dans la morale musulmane, les rapports vaginaux entre un homme et une femme sont normaux, tandis que les rapports anaux ne le sont pas. L'homosexualité est déviante parce qu'elle est contraire à l'intention de Dieu et parce qu'elle est explicitement condamnée dans le Coran et les Hadiths. Dans la sourate 26, 165-175, le sort condamne l'homosexualité masculine des habitants de Sodome. La sourate 4, 16, semble se rapporter à l'homosexualité masculine et indique que ceux qui la pratiquent devraient être punis sans indiquer quelle sera la punition. Certains hadiths recommandent de lapider les personnes coupables de pratiques homosexuelles, se fondant sur le fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorre en faisant tomber une pluie de pierres sur ces deux villes. Si l'école juridique en balite applique des sanctions graves pour les actes homosexuels, l'école hanafite ne le fait pas. En Malaisie, pays musulman, le Premier ministre a fait mettre en prison le vice-premier ministre pour cause d'homosexualité, considérée comme constituant une menace politique. L'homosexualité est illégale dans les pays musulmans, mais elle est souvent tolérée si elle est pratiquée discrètement. Ainsi, vous ne trouverez guère de bars ouvertement gays dans les pays musulmans, mais cela existe au moins sous forme de clubs réservés aux initiés. Le Coran, les hadiths et les archives historiques évoquent peu la question du lesbianisme. La plupart des musulmans diront spontanément que ce type de rapport sexuel est condamnable. Le fait de se travestir ou de vouloir changer de sexe est condamnable dans la morale musulmane. Le rôle de chaque sexe doit être clairement différencié et tout ce qui aboutit à une confusion des genres est considéré comme déviant. La pornographie est condamnée parce qu'elle cherche intentionnellement à exciter plutôt qu'à maîtriser la concupiscence, et également parce qu'elle est dégradante pour les femmes. Dans un livre fréquemment cité portant sur le licite et l'illicite en islam, Yusuf al-Qaradawi explique que l'islam a pour principe général d'interdire tout ce qui peut mener au péché. La pornographie et les actions moins explicites, qui peuvent susciter une stimulation érotique, comme les danses de salon en couple, sont donc interdites comme sauvegarde contre un risque d'adultère éventuel ou de rapports sexuels illicites, du point de vue musulman. Les méthodes modernes de régulation des naissances, autres que l'avortement, sont courantes dans l'islam. Le recours à la contraception est légitime pour éviter d'avoir une trop grande famille à élever. Ainsi, on constate que dans les 50 dernières années, le taux de natalité dans un certain nombre de pays musulmans a nettement chuté. Cependant, beaucoup de musulmans conservateurs ont joint leur voix à celle des catholiques pour s'opposer à certaines recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la population qui s'est tenue au Caire en 1995. Les musulmans se sont opposés au fait que l'État impose des mesures de régulation des naissances, y voyant même un complot occidental destiné à réduire le nombre de musulmans dans le monde. L'insémination artificielle de l'épouse avec le sperme du mari est habituellement autorisée, bien que certains ne soient pas d'accord. Cependant, l'utilisation du sperme d'un autre homme que le mari dans le cas de la stérilité masculine est considérée comme un adultère. La maternité de remplacement par des mères porteuses est également interdite par la loi islamique. Un enfant né d'une mère porteuse est un enfant illégitime au regard de la loi islamique. L'islam condamne vigoureusement l'utilisation du sexe pour faire vendre des produits. Vous ne verrez pas en pays musulman de femmes légèrement vêtues faisant l'article d'une voiture dernier cri, ni d'hommes en caleçon Calvin Klein lassivement allongés sur les panneaux publicitaires placardés dans la rue. Mais la société marchande gagne du terrain. Certaines publicités sur les aliments, les vêtements et les cosmétiques commencent aujourd'hui à envahir les écrans des télévisions arabes. Et même certains grands panneaux de réclame qui poussent comme des champignons dans les grands axes des villes. Pour l'heure, leur message est assez soft, mais l'approche est progressive. Dans certains cas, cosmétiques et parfums notamment, le côté sournois de la publicité est déjà sensible.